palabra con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco a la...
Avec Internet, on accède à tout, ou presque. On s'informe, on voyage, on lit, on écrit, on parcourt des territoires réels, d'autres imaginaires. On parcourt des territoires réels qui deviennent utopiques, d'autres qui semblent virtuels, acquièrent au contraire une consistance incroyable, prennent corps, sous nos doigts, sous nos yeux. Pour les poètes, les écrivains, c'est parfois pain béni. C'est en tout cas un laboratoire de création inépuisable. Pour Anne Savelli et Pierre Ménard, nous invités ce soir, pas de doute, il faut s'en emparer et cheminer avec. Ils le font, ils l'ont fait, avec Laisse Venir, par exemple, un trajet Paris-Marseille sur Google Street View, dont on garde la trace. Bonsoir, bienvenue Anne Savelli, Pierre Ménard, bienvenue à vous tous pour cette nouvelle rencontre à l'air libre au studio de la Friche Label de Mai, les rencontres mensuelles que nous proposons avec Système Friche Théâtre à la Marelle. Anne Savelli, Pierre Ménard, vous étiez tous les deux présents pour les 48 heures chrono proposées pour la première fois cette année à la Friche. Vous nous avez proposé un projet qui a été entamé précédemment, qui s'est un petit peu concrétisé ici, qui a poursuivi ce chemin par la suite. Anne, tu étais en résidence pendant le mois de mai 2012 à La Marelle, où tu as imaginé d'autres choses, où tu as poursuivi d'autres travaux d'écriture. Je veux dire quelques mots sur chacun d'entre vous, mais ça va être quelques pistes, parce que je pense qu'on va aborder ensemble dans la conversation tout à l'heure d'autres choses, y compris biographiques peut-être, puisque ça se mêle avec vos travaux d'écriture. Anne, ton premier ouvrage a été entamé en 1998 et fini en 2001, publié ici aux éditions Le Mot le Reste en 2007. Fenêtre Open Space, c'était un trajet en métro aérien sous forme de journal qui a suscité un blog qui est toujours en activité. En 2008, il y a eu toujours chez le même éditeur Cowboy Junkies, qui était un texte à partir de ton rapport avec un groupe de rock, folk, canadien, un livre qui est lié en quelque sorte au suivant, Franck, qui est sorti chez Stock dans la collection La Forêt. Qui évoquait un homme en particulier à travers des lieux qu'il fréquentait, mais pas uniquement, des territoires très urbains toujours. Un autre site qui a été créé à cette occasion, à l'occasion de la sortie de ce livre, c'était Dans la ville haute, qui lui aussi est toujours en activité. Tu mêles ton travail à la vidéo, du son, des photos, du texte évidemment, qui prend place aussi bien dans des ouvrages papier que d'autres publiés sous forme numérique, comme par exemple des Zoloé. Il va falloir nous expliquer un petit peu tout à l'heure ce que c'est. Ce sont des espaces élastiques où lire ou écrire, chez Des Fictions, qui était un livre numérique. Il y a eu Autour de Franck, qui est un autre projet de texte numérique avec Thierry Meisingel, etc. Des tweets, plusieurs pseudos, pour les titres on dit pas pseudo, des avatars, merci. Pierre Ménard, alors, et puis d'autres choses, parce qu'il y a des travaux en cours et on va en parler. C'est le pseudonyme de Philippe Diaz qui anime des ateliers. Alors je ne sais pas si c'est Pierre Ménard ou Philippe Diaz du coup qui anime des ateliers, mais c'est les deux peut-être, qui anime des ateliers d'écriture, qui est bibliothécaire, des ateliers d'écriture, mais aussi de création multimédia et de travaux à partir des outils numériques aujourd'hui. Plusieurs publications, on peut citer Le Spectre des Armatures aux éditions Le Quart Nord en 2001, En avant-marge, j'aime beaucoup ce titre, chez Publi.net, des ouvrages collectifs, en particulier aux éditions Vendailleurs, Il me sera difficile de venir te voir, qui était un livre très engagé politiquement au moment de nouvelles consignes à propos de l'immigration en France dans les années Sarkozy, on va dire, pour aller vite. Écrivain en série aussi, et puis des ouvrages jeunesse. Tu as fait de la radio, tu continues à faire de la radio. Tu es aussi de l'aventure publi.net qui a été créé avec François Bon et un collectif d'auteurs, c'est-à-dire une maison d'édition uniquement, au départ en tout cas, puisque depuis peu il y a aussi une édition papier, diffusée sur Internet et avec des... sur Internet, mais aussi en téléchargement et pour des livres numériques, mais aussi avec un modèle économique un petit peu différent, des accords avec les écrivains un petit peu différents. Tu y animes une revue de création qui s'appelle D'ici là. Et puis toi aussi, tu as des sites en quantité, Liminaire, qui est plutôt ton site personnel et blog, page 48 qui est consacrée à la page 48 des ouvrages, voilà, tout ce qu'on peut trouver. La bibliothèque s'enrichit de jour en jour. Et puis, tu as quantité d'expériences et d'écritures partagées ou collectives, des échanges de blogs, par exemple, c'est des choses qui se pratiquent assez souvent, sur le net. Alors, tout ça pour nous amener à ce qui vous a rassemblé pour ce projet proposé pour 48 heures chrono sur notre invitation et l'invitation de la Friche, qui a pour titre au final Laisse venir. Vous allez nous en parler un petit peu. Je vous propose plusieurs temps pendant cette rencontre. D'abord une petite explication de cette approche, de ce projet, de cette envie d'arriver à Marseille d'abord virtuellement avec les images de Google Street View qu'on voit défiler pour ceux qui sont là derrière nous, et puis après réellement en train finalement et non pas avec le même itinéraire, et puis aussi comment ça fait sens par rapport à votre travail global sur l'écriture numérique, et puis on élargira ça avec d'autres aspects de votre travail, mais entre temps on vous entendra lire un extrait de ce texte écrit à deux ou à trois, peut-être avec les photos, je ne sais pas. Alors, Anne, peut-être, on va commencer par toi pour nous expliquer comment cette envie de proposer ce projet d'écriture à deux avec Pierre est venue quand tu as été invité pour les 48 heures chrono.
Au départ, c'est... Est-ce que ça marche ? Oui.
Est-ce qu'il y a du son ? Oui. Ouais.
Au départ, c'est un projet de Pierre. Hein, tu te souviens, c'est un projet un peu ancien qu'on n'avait pas développé. On avait fait une petite esquisse de ce qu'on voulait faire. Mais le Paris-Marseille, c'est une idée à lui. Et quand tu m'as proposé de venir à la Marelle, évidemment, Marseille a résonné tout de suite avec ce projet-là qu'on avait, non pas dans les tiroirs, vu qu'on n'a plus de tiroirs, mais enfin voilà, dans nos fichiers, dans nos dossiers. Et j'ai pensé que ce serait vraiment une bonne idée, non seulement d'effectuer le trajet chacun de notre côté, de chez nous, et en plus à Paris, on n'habite pas très loin l'un de l'autre, donc c'est assez drôle. Ce qu'au départ on ne savait pas, parce que nous on s'est d'abord rencontrés virtuellement, et puis un jour on s'est rencontrés en vrai, et on s'est aperçu qu'on n'habitait pas très loin, et après on n'a pas arrêté de se croiser les jours d'après, c'était par hasard.
Alors
quoi.
Qu'avant non.
Alors qu'avant peut-être, mais on ne connaissait pas nos têtes, donc on ne sait pas. Et donc tout d'un coup, alors c'est dessiné donc l'idée de faire ça en 10 étapes, donc parfaitement virtuel, de choisir 10 villes, et alors on ne s'est pas concerté. Et on s'est à un moment donné la liste de nos villes, et on s'est aperçu que moi je partais par l'est et qu'il partait par l'ouest, hein, qu'on n'avait pas de ville commune sauf au départ Béziers si je me souviens bien, et puis finalement toi tu l'as pas écrite, et donc après on a eu envie à un moment de venir en voiture pour vraiment éprouver quoi, le trajet commun. Mais pour des questions pratiques on ne l'a pas fait finalement, donc notre trajet réel en train qu'on vient de refaire là juste à l'instant, bon, il est assez banal, quoi. C'est un trajet en TGV, tout simple. Mais par contre, on a du coup on s'est créé des attaches avec nos villes, qui sont maintenant des attaches aussi autres que celles de souvenirs ou de rêves ou de
fantasmes. Oui, parce qu'il faudra quand même expliquer, mais je voudrais entendre Pierre, que ces villes, vous ne les avez pas choisies par hasard. Elles ont un sens par rapport à votre propre histoire à chacun, et que c'est aussi un itinéraire finalement par rapport à votre vie qui se dessine là. Mais peut-être, Pierre, nous dire pourquoi il y a eu cette idée, d'où ça vient le voyage Paris-Marseille. À la Marelle, on en a évidemment un aperçu assez particulier à travers la figure de Cortazar et son dernier livre, Les Autonautes de la Cosmoroute, qui fait ce même voyage Paris-Marseille sans jamais sortir de l'autoroute, donc qui est presque un voyage virtuel en quelque sorte. Et je sais que tu aimes particulièrement Cortazar, donc est-ce que quelque part...
Ça vient évidemment de là. Mon premier site s'appelait Marelle, avant de s'appeler Liminaire, donc... Évidemment, Cortazar, pour moi, c'était une figure incontournable. L'idée, c'était vraiment de travailler aussi sur quelque chose que je mets en pratique très régulièrement dans mes ateliers de création. C'était d'interroger Google Street View, de voir ce qui était possible de faire avec cet outil assez fantastique qui interroge aussi bien l'espace que le temps. Quand on travaille en atelier autour des images, capture d'images d'endroits qui ont été figés à un moment donné, qui peuvent être à une saison à un moment donné et dans une autre saison à un autre moment donné, en fonction du moment où ça a été capté, ça interroge forcément notre rapport au lieu, notre rapport au paysage. Donc quand l'idée est venue de travailler avec Anne sur un trajet, Paris-Marseille s'est assez vite imposé, d'abord parce que nous habitons Paris et parce que l'un et l'autre avons une relation particulière avec cette ville de Marseille, voilà, après qu'on pourra, sur laquelle on pourra revenir, et voilà, ça semble être un trajet assez fort sous l'ombre tutélaire de Cortazar, bien évidemment, qui lui l'a fait avec sa femme à la fin de sa vie, en s'arrêtant sur les aires d'autoroute et en ayant un regard sur le trajet, justement, qui interrogeait le banal, le minuscule, ce qu'on ne regarde pas, ce qu'on ne voit plus à force de passer, voilà, parce que c'est la direction qui importe quand on part en vacances, parce que c'est un peu... pour ça qu'on prend les autoroutes.
Et un peu aussi le passage du temps, comme c'était leur dernier voyage, ils savaient l'un et l'autre qu'ils étaient atteints chacun d'une maladie grave et dont ils allaient succomber, pas dans l'ordre attendu d'ailleurs, mais évidemment il y avait aussi une interrogation sur le temps dans cette entreprise, ouais. Puisque j'évoquais là le rapport à votre propre passé. Quand vous avez choisi les villes, peut-être que... Anne, comment s'est construit cet itinéraire ?
Alors, c'est greffé... Enfin, il y a d'abord... moi, je suis partie de plusieurs choses. Je suis partie du titre. C'est Pierre qui a trouvé Laisse venir. Moi, j'aurais jamais eu l'idée de ça. Et en même temps, j'ai découvert, là, très récemment, que dans mon prochain livre, qui s'appelle Décor Lafayette, il y a précisément, à un moment, ce terme-là, de laisser venir. Et j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, parce que je ne m'en souvenais plus. Et donc, c'était drôle parce qu'il y avait déjà un écho, mais c'était vraiment inconscient. Et donc, je joue quoi, sur l'expression. Et aussi, c'est greffé donc à ça, ce qui m'occupait, me préoccupait à ce moment-là, qui était d'une part la question de l'écriture et de l'intensité dans laquelle ça plonge, et des questions que je me posais, ou que je continue à me poser sur à qui je m'adresse. C'est-à-dire qu'il y a plein de « tu » différents dans mon texte, qui sont des hommes, des lieux, des textes. C'est-à-dire que je fais une sorte d'indistinction entre les personnages et les décors. Hein. C'est quelque chose que je fais depuis un moment. Et voilà, il y a une indistinction. En tout cas, il y a un passage sans cesse, puisque Franck, c'est déjà la description de quelqu'un uniquement par lieu. Il y a un passage comme ça. Après, le choix des villes, il y a certaines villes qui sont fantasmatiques, c'est-à-dire que je n'y suis pas forcément allée. Par exemple, Asnières, c'était simplement que j'étais amoureuse à 14 ans de quelqu'un et dont la seule chose que je savais à peu près, c'était son adresse et que c'était à Asnières. Voilà. Et puis, il y a des villes d'enfance, de vacances ou de famille, etc., comme Béziers, par exemple. Et puis, il y a aussi un trajet... en voiture, fait avec un des tu, entre guillemets, du livre qui passe par Auxerre, Dijon, etc., c'est-à-dire descendre tout bêtement vers Lyon et puis vers le sud. Et mon trajet est un petit peu aberrant, c'est-à-dire il n'y a absolument aucune raison de passer par Asnières puisque ça fait un détour. Mais ça, alors là, la cohérence géographique ne m'a pas du tout préoccupée, on va dire. Voilà. Donc en fait, on passe, des fois dans le texte, je vais avoir, disons, 8 ans, des fois je vais avoir 25 ans, et puis ça va être 2012. Moi je le sais, le lecteur va s'en douter, mais ne le sait pas forcément, et ce n'est pas très grave, quoi. Parce que de toute façon, on est dans une histoire. À partir du moment où on s'occupe de l'espace, on s'occupe du temps. Donc, et parler des strates de temps quand on parle du lieu, pour moi, c'est une évidence, quoi. Donc, par exemple, dans Franck, je fais croiser les années 80 avec les années 2000. Voilà, c'est quelque chose une chose à laquelle j'ai déjà pensé, quoi. Voilà. Donc moi, mon choix, il s'est fait comme ça. Maintenant, Pierre.
Alors, pour moi, c'est très lié à l'enfance. Il se trouve que quand j'étais enfant, je passais souvent des vacances chez mes grands-parents. J'en avais deux, l'un du côté de ma mère qui habitait plutôt dans l'Indre et l'autre qui habitait à Pamiers, donc dans l'Ariège. Et souvent, donc, le trajet familial, c'était de relier ces deux parents du côté paternelle et maternelle. Et donc on faisait la traversée de la France. Alors on l'a beaucoup fait en train, mais on l'a aussi fait beaucoup en voiture. Et donc j'ai beaucoup de souvenirs de ces lieux-là. Et donc je souhaitais relier bien sûr Paris-Marseille par un détour, là aussi pas crédible du tout, puisqu'on fait quand même un large détour, c'est pas les voies les plus directes, mais c'est souvent celles-ci qui sont les plus intéressantes. Essayer donc du coup d'interroger des villes où on a beaucoup de souvenirs forts, puisque des souvenirs d'enfance, et en même temps d'aller voir ce que Google Street View lui propose, restitue, et se confronter à nos propres souvenirs, voire en retrouver d'autres, découvrir des endroits qui ont disparu, des endroits qui sont restés tels quels. Moi, j'ai souvenir, par exemple, dans un petit village de l'Indre qui s'appelle Tournon-Saint-Martin, qui est aujourd'hui quasiment un village désert. Et Google Street View le restitue. Alors, c'est en plus là, dans l'hiver, donc c'est des rues entières vides, des commerces quasiment tous fermés, avec marqués vendus. Enfin,
et décors de western, tu écris.
Presque, moment. Oui.
Western, quand les acteurs sont partis, quoi.
Tout à fait. Avec, c'est vrai, ce qu'il y a de particulier, les contraintes particulières de Google Street View, un point de vue particulier, un temps particulier, à des endroits particuliers, toujours bien sûr très lié à la route. C'est là aussi où ça rejoint le western, c'est que c'est un projet qui est lié à l'enregistrement de vues prises depuis une voiture, et donc c'est forcément lié aux routes. Alors souvent on en voit des routes, on voit des champs, on voit des étendues, et quand on traverse les villes, on voit aussi que la voiture peut passer le matin où il n'y a pas grand monde, même si c'est des villes où il peut y avoir du monde.
Alors, on a reçu, avant de vous entendre lire, on a reçu il y a quelque temps François Bon pour une lecture d'une traversée de Buffalo qui associe aussi Google, non pas Street View, parce que là c'est Google Earth, donc c'est vu par dessus et on a une cartographie comme ça, et un travail d'écriture. Et tout à l'heure, quand tu as évoqué finalement ce projet, tu es d'abord parti sur la question des images. Anne, tu es partie sur la question du texte, et en même temps vous êtes tous les deux dans ce rapport texte-image, et c'est une écriture dans les deux cas qui vous rapproche, cette jonction entre les deux écritures au fond, cette écriture hybride et cette utilisation de deux supports, de deux matériaux différents.
Ah oui, moi je parlais de mes préoccupations qui étaient d'écriture, mais je me suis clairement appuyée, je suis partie de ce que je trouvais sur Street View, et ça m'a amené quelquefois à écrire des choses que je n'aurais pas écrites. Et c'est marrant parce que je me suis aperçue après que mon texte commençait donc à Paris et se terminait à Marseille, que c'est les deux villes où je ne suis pas Je ne suis pas encore dans Street View. C'est-à-dire, on va l'entendre là tout à l'heure, Paris, je n'arrive pas à partir. Et c'est drôle, parce que, je vais en lire qu'un petit passage, mais c'est une succession de moments où j'essaye de partir. Alors qu'en fait, je ne pars pas, puisque je fais le voyage virtuellement, je suis dans ma chambre. Mais n'empêche que, voilà. Et donc, mon passage est dans le métro, et j'écris vraiment dans le métro, voilà. Et puis à Marseille, c'est pareil, on a pris le train tous les deux, et en fait, on a découvert nos textes à ce moment-là, dans le train. Et il y avait un masseur, c'était IDZEN, voilà. On fait de la pub pour la SNCF, il y a un masseur. Et donc j'ai décidé de me faire masser le dos par le masseur. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le masseur dans le livre. Et il se trouve qu'il ressemblait, il avait le même look que le petit bonhomme qui est sur la carte de Street View. Il était chauve et habillé en orange jaune, comme le petit bonhomme de Street View que j'avais passé mon temps à déplacer sans arrêt, quoi, pour aller voir des choses, par exemple de Béziers. Les images que j'ai trouvées ne ressemblent pas du tout aux images que moi, à mes souvenirs. Eh ben, c'est pas grave, je vais utiliser ce que je trouve, je vais rebondir autrement, et ça va donner autre chose qu'une simple illustration d'un souvenir. Voilà.
Le travail a vraiment été en écho au périple. C'est-à-dire que quand on commence à choisir des images, on y va avec une idée, on a choisi une ville, on sait pourquoi on y va, mais on ne sait pas ce qu'on y trouve. Mmh. Et souvent, moi j'ai fait plein de... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de photos, on n'en a gardé que quelques-unes pour l'ouvrage, mais il y a plein de détours qu'on peut faire, parce qu'une fois qu'on a retrouvé un souvenir, un lieu en amène un autre, et on se dit, mais oui, il y a aussi ce lieu-là qu'il faut que j'aille inspecter, voir s'il existe toujours, et on prend des chemins détournés, et on fait des grandes boucles, en fait. Donc c'est vraiment un périple qui reprend le principe de l'écriture, hein. Et donc ça interroge, les deux, images et textes, se renvoient l'un et l'autre sans cesse.
Alors on va vous écouter lire un extrait, plusieurs extraits d'ailleurs, hein, de cet ouvrage qui existe pour l'instant uniquement virtuellement, mais qui va exister sous format numérique, j'espère, et on espère tous prochainement. En tout cas, il est là, il est terminé, et il a sa propre vie déjà, au fond, puisqu'on commence à le faire lire. Et on va donc vous écouter en commençant par Anne. Oui.
Paris. Et voilà, ça se déplie, ça s'avance, ça se déroule, ça progresse. Début du texte venu, du commentaire du tien. Laisse venir. On le sait, c'est sagesse, seule source de neuf, ne pas forcer le trait, faire confiance au hasard, ne pas anticiper et ne plus rien connaître de soi. Quelle image? Aucune. Ou plutôt, peu importe. Nulle image de soi dans le regard de l'autre, on sait disséminer dès qu'on s'est mis en marche et l'on n'attend plus rien. Mur, ciel, parallaxe. Ce qui vient, c'est le corps, corps du monde observé. L'autre est là, c'est constant et il est invincible. On le porte, il nous tient et pourtant rien ne pèse. Des bords, lignes et failles, l'alentour minéral, végétal, bétonné devient force de frappe. Le monde entier devant. Au tournant, quand chercher l'aventure se dit « laisse venir », que le reste s'en faire. Allez. Et tout est dans ton œil que j'aime. Métro, sur la ligne 9 entre République et Saint-Philippe-du-Roule, 12 avril 2012. Elle m'a dit, je ne m'en sortirai jamais. Cheveux blond gris, mains en avant. Derrière elle, une vieille, très vieille, presque chauve, pourtant brune, de longs fils lissés derrière les oreilles sur un crâne pointu, disparut peu après et du monde dans la rame. Je me disais, voici Lafayette. Je ne descends pas. C'est Philippe Duroule qui me tient par l'argent, par l'absurdité de cet état dont personne ne sait s'il existe, écrivain, et quoi d'autre encore. Me tient par l'invisible, les non-dits, l'état de l'écrivain. L'intensité, rien qu'elle. Le reste. Je travaillais en secret à cette station-là, Saint-Philippe Duroule, pour gagner du temps à écrire. Le reste, on l'appelle vitrine, signatures et salons, une ou deux fois par an. On nous parle de chance alors. Qui saura nommer ça, ce qui nous prend, nous enchante, nous ébranle, nous tombe, comme on dirait, tomber quelqu'un? Est-ce une chance si hors écriture rien n'existe? Si l'écriture n'existe sans cette main d'acier qui s'empare et distord? L'intensité seule me tient, pour ce qu'elle offre de précision, de concentration absolue. Pour le vertige des vies que nous ne vivrons pas, diraient certains, mais si, pour ce qu'on refuse de contraindre. Est-ce une chance ? Bonne nouvelle. Au-dessus, s'il fait soleil ou pleut, on ne saurait le dire, le temps est si changeant. Pourtant, à parier sur la chose, métamorphose fiction, je me demande par exemple, qui voudrais-je être dans le wagon ? Pas plus cravate qu'alliance, et surtout pas la femme qui me regarde écrire. Je me demande ce qu'elle pense, sort Amiro Ménil. Pas plus la montre-bracelet que le sac à main sous l'aisselle, pas plus l'écharpe que la sacoche, pas davantage moi qu'une autre, pas plus... Laisse venir, et ne te laisse pas tenir en laisse. Je pense à qui, homme, texte, lieu, ne sait pas que j'y pense. Je pense à ce qui a tissé tous ces liens, me tient sans l'avoir voulu, oh, qui sait, si proche. M'insère, m'insinue dans ce que j'ignore, dans ce qu'il me dit de sa vie, dans ce qu'il espère, aime ou non, à cette seconde où j'écris, dans ce qui le met en colère, le fait douter, dans ce qui le calme, le rend ivre, l'invite à la duplicité. Dans la ligne qu'il trace et ses jeux de pensée, dans l'émerveillement qui lui reste, sans compter les silences, oubli. Dans ce rêve diminué, renaissant, en alerte, qu'il me fait partager. Et qui sait si c'est vrai ou faux, ce qu'il me nomme ainsi, j'y pense, ça ne change rien. Et qui sait si de l'un de l'autre on se lasse, j'y pense, sans doute oui, mais n'en ai pas idée. Encore une chose, je ne suis pas partie. Je suis là, il fait froid, beaucoup plus ce matin. Bobigny et Drancy, et Bobigny encore, voilà la matinée. Un canal, un tramway, un parking couvert, une salle de réunion, un projet, un conseil, la promesse de se revoir. Je suis là, à Jaurès, Paris, devant le bassin de la Villette. Il fait froid. Un rayon de soleil, un très court instant, perce, se retire, main brûlée sur la surface des choses. Pavé, embarcadère, droit devant des bouées, sur le côté on lit confiserie, néon rouge. Du thé, un plateau et des portes à battants. Du wifi qui ne marche pas, un chauve rayon fumeur, Bruce Willis dirait-on, et ensuite il se lève. Je suis là à écrire et c'est du temps volé, du temps pur et perdu, dès que je sortirai, porte à battants signant l'envoi dans le passé, l'arrachement plutôt. Le regard sur la nuque, la pluie qui recommence, le bateau à bouée faisant l'aller-retour, je pense à mon grand-père cuisinant, chose rare. Je pense au Mantecao dans le four. Été, raisin, jambon, mer. Je pense que mon thé a goût d'huître et de chien. Je regarde le bateau partir. Allez, ouvrir, fermer, les portes à battants, dans un sens et dans l'autre, pour combattre le sort.
Rapidement, un protocole d'écriture se met en marche. Ouvrir Google Maps. Se rendre sur Google Street View. Déplacer le petit personnage orange. Il porte un nom, mais choisir de ne pas le retenir exprès. Aucune volonté d'identification avec lui. Ce n'est qu'un outil. Préférer garder son anonymat. Chacun lui donnant en lui-même le nom qu'il souhaite, comme je le fais avec mon disque dur, par exemple, quand je le nomme Monsieur Muscle. Le déplacer sur la carte à l'endroit où je souhaite me rendre ou poursuivre le voyage. Et le trajet commence. En tâche de fond, de quoi écrire, bien sûr. Noter directement sur l'ordinateur tout ce qui nous passe par la tête, les images qui retiennent notre attention et celles vers lesquelles nous voulons revenir plus tard. Écrire et photographier, sans appareil photo, dans un même mouvement, une même dynamique, un même geste. La direction choisie nous amène parfois à d'étonnantes sorties de route, et nous voilà glissant sous la pile du pont. Un chemin que je ne connais pas, j'en reconnais le nom, le Gore, qui m'a toujours intrigué. Mais cette voie, ce feu, au fond du jardin, je ne l'ai jamais vu. Il n'entre pas dans mes lointains souvenirs. Je cherche à rebrousser chemin, revenir sur la départementale, difficile de refaire le chemin à l'envers, remonter le temps. Est-ce toujours aussi dur ? Revenir sur les traces de son passé, première démarche, et tomber dans le piège, la fascination des retrouvailles. Les paysages ont changé, fixés dans une saison qui n'est pas celle que j'avais gardée en mémoire, étonnement des retrouvailles aussi. Se perdre dans le dédale des ruelles que l'on croyait oubliées. Finalement, cet endroit a peu changé. Suis-je resté le même, comme ces vieilles pierres me laissent le penser un temps? Nous n'avançons, quel que soit le chemin emprunté, la démarche incohérente ou pas, que le regard figé en arrière de l'enfant que nous n'avons jamais été, mais que nous pensions être. Je sens presque l'odeur des feuilles d'automne, leur craquement sous mes pas, cette légère humidité dans le fond de l'air, vent passager sur mon visage. Vertu de ceux qui ne changent pas. Il y avait cette impression de suspens, écrit Jean-Christophe Bailly dans son ouvrage Le dépaysement, les rues bordées de maisons ou d'immeubles semblant avoir été faites pour infuser dans un automne perpétuel un novembre gris et roux, dénué de tout espoir, avec quelque chose, je ne trouve pas mieux, quelque chose de rassurant dans cette sensation d'un temps aluni, se déposant feuille après feuille, presque imperceptiblement, sur des vies usées, absentes. Le vieux pont à Boussy-Saint-Antoine. Je lis le panneau en faïence posé sur le mur que l'on a visiblement rénové il y a peu. Construction antérieure à 1446. Selon une tradition locale, il aurait été édifié entre 1350 et 1360 par Jeanne d'Évreux. Tenter de retrouver son chemin. C'est en empruntant la route à l'envers que je retrouve des paysages enfouis dans ma mémoire. Et les noms des rues auxquels j'associe tant de souvenirs. La Nérac, par exemple. En route, et déjà je cherche plus à me perdre qu'à retrouver mon chemin. Et c'est la lumière, ici celle d'un soleil automnal, dans les dernières feuilles des arbres, qui attire mon attention. Je peux passer à travers les bosquets, et me voilà transporté dans une nouvelle dimension, un autre lieu, comme avec les bottes de cet lieu. Effectuer un circuit, très vite on tourne en rond. Les souvenirs ne reviennent pas sous forme d'images, les images que l'on voit en marchant, en circulant nous en empêchent, mais sous la forme d'émotions. Je sens battre mon cœur plus fort, sans savoir pourquoi. Un rond-point, c'est une île déserte le plus souvent. La jeune femme a traversé la route, s'est logée là, comme elle a pu, au milieu. Sans doute pour gagner du temps, traverser au plus court, suivre les lignes de désir que tout passant dessine à travers l'espace contraint des villes, sans se rendre compte du danger que cela représente, quand aucun passage piéton à sa disposition pour traverser la route et rejoindre l'autre côté. Les jardiniers municipaux ont soufflé sur les feuilles tombées des arbres à cette époque, créant sous les arbres à demi nus un tas en forme de haricots à la Viala. Souvenir de la place de la Grande Armée à Paris, avec Damien et Caroline. C'est l'automne. Un lieu que je veux retrouver ne m'est pas visible en cette saison. J'avance un peu et nous sommes quelques années plus tard, au printemps. Les arbres sont tous nus et le lieu en travaux. C'est très long de remonter le temps. Forêt domaniale de Sénart, feu de barbecues interdits. Sur cette route, des vélos, le souvenir de Caroline et moi en voiture pour la retrouver. Ce qui surgit sans cesse est justement ce qui nous le rend visible. Se forcer à l'impression fugitive qu'une autre vient tout de suite recouvrir avec ses paysages différents et ses saisons variées. Et cette route uniforme, cette rue, parfois simple ruelle, impasse ou voie non classée, l'autoroute à perte de vue monotone dont la simple évocation ravive le souvenir des autonautes de la cosmoroute, chemin de croix des aires d'autoroute où construire un monde en soi, là où tout le monde nous rejette, nous ignore, nous invite à fuir et parfois même nous y abandonne. Cette ligne directrice, notre fil rouge, fil conducteur, n'apparaît pas toujours, mais sa présence en creux trace en nous la ligne à suivre. Une flèche qu'on décoche, ce que la langue laisse entendre à mots couverts. L'acide ruelle qui trace des itinéraires invisibles à la surface. Mais il n'existe pas de meilleure façon pour décrire une ville, découvrir chacune de ses strates, que les investigations d'un détective. La profondeur d'une flèche violente. Construire ce que nous voyons. Ici, rien n'est réellement accessible. La flèche nous emporte au loin par saccades floues, équivalent à nos battements de paupières, au rythme de notre respiration. Avancée lente, progressive, comme dans la marche. Mouvement propre à la réflexion. Passer par où j'ai déjà vécu, voir et revoir tous ces lieux tels qu'ils ont été, mais pas à l'époque où je les ai connus, fréquentés, tels qu'ils sont aujourd'hui, figés dans le temps de la prise de vue. Il y a 2, 3, parfois 4 ans en arrière. Avancer ainsi, dans l'espace et le temps, mais toujours avec un temps de retard, en arrière.
Marseille, ce matin-là, tu ne seras pas loin. Dans ma poche, peut-être. Et je commencerai tout bas à te parler. Je ne commencerai pas, je t'ai toujours parlé. Et ce que tu réponds m'accompagne sans cesse, en silence croisé. Prend sa source en ce qui, dans la circulation entre nous, s'est fixé, se crée, se renouvelle, ne se maîtrise pas. Toi, fugue, fuite, escapade, homme, texte, aimé, incarné aussi bien en un tu et plusieurs, et un seul, à nouveau. Un homme que je déplace sur le plan, dans les phrases, des cartes que l'on brouille. Et je pourrais t'écrire des pages et des pages, dans le secret des lignes tu demeuras toujours, entre le loin, le près, tellement important. Je croirais t'oublier dans le dépaysement, et tu demeureras. Important n'est pas le mot. C'est un terme cachette. Je te cache dedans et te cache aussi bien la place que tu prends. On pourrait dire parfois que tu envahis tout sans en avoir idée. Important te réduit, je deviens raisonnable, mais c'est un leurre, sais-tu? Cela vaut mieux. Laisse aller, me dit l'homme dans le train. Laisse, laisser, allez, laisser, allez, oui, laisse. Hésite entre le tu, le vous, ne les prononce pas, s'éclipse de la phrase. Allez, laisse, me dit l'homme qui masse, tandis que ses doigts, mes épaules, un pré, de la musique, des rires, le parfum du café, son épaule, mon dos, la forêt, la rivière, le long de la vallée, et ta compagnie silencieuse. Allez, viens, laisse aller. Épaules et nuque tombent dans ses bras. Et ce tu qu'il m'adresse accompagne le geste. Il n'y a plus de vous, plus de distance qui tienne. Allez. Encore une minute. Au bar des méandres, à la vitre gris-vert, un paysage pâle qui conduit à Marseille, sans passer par Asnières, sans passer par Dijon, ni Auxerre, ni Béziers. On approche. Je ne sais s'il est mieux de fermer ou d'ouvrir les yeux. Tandis que je m'abandonne, entre ses bras, ses mains, qu'il me plie, me redresse, laisse aller, laisse venir. Tandis que je me dis, voici le corps placé, retrouvé d'une pièce, point par point, rassemblé devant le paysage, je laisse aller. Chute tes phrases, c'est tout un. Tu es là, n'y es pas. Je pense à toi toujours, et ne pas y penser, c'est y penser encore. Allez. Ne plus rien contenir et attendre de voir et les trains et la mer.
Merci. Je me faisais la réflexion en vous regardant lire, parce que vous êtes tous les deux sur des liseuses que tactiles, que vous caressiez du doigt pour passer d'une page à une autre, pour sauter des passages. Je me faisais la réflexion avec ce dernier passage très tactile aussi, où tu te fais masser, Anne.
Ah ouais.
Et puis peut-être aussi ce que vous avez évoqué au départ, prendre ce petit personnage orange pour le placer. Il y a quelque chose de... d'assez nouveau dans les gestes là, et de lecture et d'écriture au fond, quelque chose de très tactile qui il me semble va un petit peu à l'encontre de ce qu'on a l'habitude d'entendre, un petit peu les idées reçues sur le toucher du papier qu'on perd à la lecture. Je ne sais pas si ça vaut le coup de bien s'étendre là-dessus, mais il me semble que là, on a une application concrète de comment ça peut être, au fond, comment ça peut être réapproprié par les gens qui lisent, les gens qui écrivent et les gens qui font les deux, comme vous. Donc je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui vous vient à l'esprit, soit de temps en temps comme ça par des flashs, Pierre, soit dans des ateliers justement où tu transmets une pratique et où ça vient à un moment où ça nécessite explication.
Le livre, c'est une technologie qui a plusieurs siècles, donc forcément on a un rapport avec cette technologie très long. Aujourd'hui, les nouveaux supports de lecture demandent un apprentissage. Nous, on est dedans, on l'utilise régulièrement, mais les gens vont découvrir avec ces outils et les logiciels qui vont avec, logiciels pour permettre la lecture et l'écriture. Moi, par exemple, aujourd'hui, ces tablettes dont tu parles, ça peut être un outil à la fois d'écriture. Je peux taper mon texte et je peux le mettre tout de suite en page pour, sur cet outil de lecture, en avoir un accès direct. Et tout ça se fait sur un écran, mais un écran qui a évolué par rapport à l'écran de l'ordinateur qu'on avait l'habitude et pour lequel les gens qui ont l'habitude du livre ont beaucoup de mal à se dire que c'est un outil de lecture, l'ordinateur. Ils travaillent, ils lisent, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils lisent sur Internet déjà. Simplement, ces nouveaux outils, les tablettes, permettent d'éditorialiser, de mettre en forme et de permettre une lecture différente, avec une circulation différente. Et donc à nous aussi, auteurs, à proposer des textes qui correspondent à ces outils dans la circulation de lecture, dans les histoires qui sont proposées, dans l'univers qui est proposé. Je pense que c'est là où y a un travail à faire de l'auteur et de ces technologies qui doivent évoluer et que le public doit apprendre à prendre en main.
Est-ce que, là encore, pour reparler de François Monge, j'ai cité tout à l'heure dans son ouvrage après le livre, il le dit, et c'est ce que tu es en train d'expliquer aussi, que finalement chaque époque a apprivoisé son outil. Pour la plupart des écrivains, il y a forcément une période d'apprentissage, et que peut-être récemment, il y a eu une sorte d'abandon de la part de certains de l'apprentissage de nouveaux outils, et donc d'un état de dépassement, de peut-être de désarroi face à ces nouveaux outils, alors que d'autres, au contraire, plongent les mains dans la machinerie, sans aller jusqu'à l'écriture informatique, mais dans au moins l'apprentissage de tout ce qui est permis par chacun d'entre nous pour utiliser cette machine au mieux. Et du coup, ça provoque, comme tu l'as dit, aussi bien une manière d'être par rapport à l'écrit différente, mais aussi des changements de forme, des changements de contenu. Ce qu'on disait tout à l'heure, Anne, avec ce traitement d'écriture associant donc texte et image, par exemple, là, ça semble assez évident.
Oui, ce qui est... nous, on a des fois un peu de mal à répondre parce que ça fait longtemps qu'on y est, quand même. Ça fait 10-15 ans, quand même, qu'on y est. Et moi, je suis toujours pas devenue codeuse. Je le regrette d'ailleurs. Mais c'est un peu compliqué parce que moi, j'aime bien passer d'un support à l'autre en plus. C'est pas une chose contre une autre, quoi. C'est ce qui m'intéresse toujours, c'est la circulation entre les choses. Et c'est comme ça pour les outils, comme c'est comme ça d'un texte à l'autre. C'est-à-dire que mes textes se répondent les uns les autres. Et si les lecteurs ne s'en rendent pas compte, c'est pas grave. Et s'ils s'en rendent compte, ça peut être un petit clin d'œil, un petit plaisir supplémentaire, quoi. Mais en fait, tous mes livres sont liés entre eux, Par exemple, le prochain des Call of Fate, il est dans mon esprit lié à Fenêtre. Il y a des raisons, etc. Tout est toujours relié. Et je pense que j'avais ça en tête avant. Mais c'est vrai que l'arrivée dans ma vie des ordinateurs et puis après de la connexion, ça a fait écho à des choses qui m'occupaient déjà avant, quoi. De façon très pratique dans ma vie et puis dans l'écriture. Déjà, à la base, le traitement de texte, moi, m'a permis d'arrêter de faire des ratures, d'arrêter d'être fascinée par mes ratures. Et en fait, j'ai écrit il n'y a pas très longtemps un texte à la main, alors que ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, et je fais toujours autant de ratures. C'est-à-dire, il n'y a pas eu une espèce d'évolution comme ça, où tout d'un coup, maintenant, j'écrirais de façon très fluide, et je ne ferais pratiquement aucune rature, et puis je ferais des pages en une heure, ça serait génial. Ben, des fois, en fait, j'ai écrit un paragraphe dans ma journée, et si on regardait les ratures, c'est l'équivalent de 3 pages ou de 4 pages. Voilà. Et effectivement, je m'en rends plus compte par le traitement de texte, ce qui est une libération. Et en même temps, je peux avoir la sensation de ne pas avoir beaucoup bossé pendant la journée, alors que je sais que j'ai travaillé beaucoup. Bon, ça, c'est une première chose, mais c'est déjà ancien. Voilà. Après, c'est vrai que la multiplication des outils fait que, ben, par exemple, pour Désoloé, qui est donc un livre, pour l'instant en tout cas, qui est uniquement numérique, c'est comme pour Laisse venir. Alors, évidemment, j'ai lu les passages où ce n'est pas le cas, mais dans les autres passages, il y a un rebond texte-image, quoi. C'est-à-dire que j'intègre vraiment quand j'écris, il se trouve que j'écris encore sur traitement de texte. Alors François va dire que je suis un vieux schnock, hein, parce que voilà, il fait même plus ça, lui. Mais je vais insérer l'image pendant que j'écris mon texte. C'est pas que le texte sera pas une illustration de l'image ou l'inverse, quoi. Il y a un moment, je coupe ma phrase, hein, je mets l'image, et grammaticalement, l'image fait partie de la phrase, quoi. Voilà. Et c'est des choses... c'est vrai que ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a la main sur un certain nombre de choses. Nous, on n'est pas tributaire, je ne sais pas moi, d'un éditeur, etc. On fait ce qu'on veut. Enfin, on fait ce qu'on veut et ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'on fait aussi avec ce qu'il y a à ce moment-là. Et ça se trouve, dans 5 ans, on se dira « Ah là là, on ne connaissait pas ce truc-là. Comment on a fait avant ?» Bon, voilà. Mais ça permet aussi de multiplier les expériences. Voilà. Et par ailleurs, je suis aussi un auteur papier. Donc,
oui, je pense l'avoir un peu montré tout à l'heure entre ces différentes manières de produire des textes, je dirais, entre les livres numériques, les livres papier et puis les blogs ou Twitter. Pierre, c'est un peu la même chose, encore que j'ai l'impression que il y a de moins en moins de papier chez toi, mais c'est peut-être une impression.
Non, c'est juste.
Et ce qui est intéressant aussi, là, il me semble, c'est cette articulation, parce que vous la pratiquez tous les deux, entre, et puis finalement, tous les auteurs qui commencent à utiliser ces outils le font, entre le fait d'écrire, de lire et de diffuser. C'est-à-dire de mettre en forme aussi, d'éditer en quelque sorte et de diffuser. C'est-à-dire que ce qui pouvait être très séparé auparavant est peut-être beaucoup plus condensé aujourd'hui, mais peut-être que vous ne le vivez pas comme ça.
Non, mais je pense que ça dépend surtout des personnes. Il y a une explication technologique. Et effectivement, aujourd'hui, c'est plus facile qu'il y a 10 ans de s'auto-publier, par exemple, donc de passer outre l'intervention d'un éditeur. Il suffit effectivement d'apprendre, déjà ne serait-ce que par un blog, on peut déjà avoir une première forme de publication. Donc ça, c'est une première approche. Après, c'est aussi en fonction de la personne. Si aujourd'hui, moi, je publie moins de choses imprimées, c'est des histoires de rencontres. La rencontre avec Publinet, ce qu'on cherche tous, c'est d'avoir un endroit où on sait qu'on va être publié, et donc de ne plus se soucier de ça et pouvoir écrire. Bien sûr, il y a des projets aujourd'hui, sachant que je peux être publié par Publinet, où je vais avoir envie de développer certains projets en dehors, parce que ça me semble pertinent et avoir du sens. Et peut-être, justement, sur des choses très numériques, sur lesquelles on travaille de façon très numérique, se dire, ça a du sens de le faire chez un éditeur papier. Parce que ben, du coup c'est une autre validation, l'édition c'est toujours aussi ça, c'est aussi pas un filtre mais quelqu'un qui tient le texte, qui le porte vers le public. Et puis après c'est une question de personne, c'est-à-dire que moi dans mes textes il y a toujours le souci, enfin comment dire, un travail de lecture des autres et un réinvestissement dans ma propre écriture de ce que les autres écrivent. Tu parlais tout à l'heure des pages 48. Quand le projet existait encore, je demandais aux gens d'enregistrer ces pages 48, des livres qu'ils aimaient. Donc ils faisaient ce choix-là, ils enregistraient le son, je le mettais en ligne, mais moi j'écrivais à partir de la page 48, en prenant 48 mots, voilà, j'écrivais un texte. De la même façon que le travail sur la revue, c'est donner la possibilité à des auteurs d'être publiés à un moment où, de l'histoire de leur texte et de leur propre activité d'écrivain dans le cadre d'une revue qui marie à la fois le son, la vidéo, donc qui est innovante par rapport à ça. Et donc c'est le souci aussi d'être au milieu des autres, de partager, d'apprécier, à faire des projets à deux, que ce soit avec Anne, avec Cécile Portier, avec d'autres, où du coup on se confronte et on n'est plus... La fonction d'auteur a beaucoup évolué, on est descendu de notre piédestal, mais justement profitons-en et changeons ces vieilles habitudes, travaillons avec d'autres, collaborons. Sur les projets numériques, on a besoin d'expérience. Anne le rappelait fort justement, on ne connaît pas forcément l'informatique comme un programmeur, comme un développeur. Sur certains projets qu'on a dans nos têtes, on a envie de travailler avec des gens qui connaissent leur métier et du coup, on va de nouveau demander des collaborations et échanger et partager avec d'autres.
Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord, c'est exactement ça, c'est vraiment l'histoire des rencontres. Alors, il y a des choses qu'on peut faire, comme les vases communicants, par exemple, où on échange nos blogs de 2 à 2 le premier vendredi de chaque mois. Moi, je sais que ça me permet d'aller écrire des choses que je n'irais pas écrire chez moi, c'est-à-dire sur mon blog. Et dans l'édition aussi, c'est pareil. Pour moi, dans mon esprit, j'ai plusieurs éditeurs. Et à chaque fois, c'est une question de se sentir au bon endroit, bien accompagné. Pour les bonnes raisons, quoi, où j'ai vraiment l'impression que la personne va me publier pour le texte précisément, quoi, et que ce soit une publication numérique, une publication papier. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, mais c'est ça qui compte, quoi. C'est ça qui compte, parce que si c'est juste pour être lu, je peux tout balancer sur internet, quoi. Mais après, effectivement, on a vraiment une histoire de rencontre avec les gens, c'est flagrant, ouais. Évident. Et le nombre de rencontres que moi j'ai pu faire depuis le début, où on ne connaît pas les gens physiquement, on les rencontre, et parce qu'on s'est déjà lus les uns les autres, on va se retrouver au café, et on va se parler, mais comme si on se connaissait depuis des années, et il y a une immédiateté, enfin, c'est un peu magique quand on a vécu autrement avant.
Ce qui s'est passé pour nous, moi j'avais lu Fenêtre, ouais. J'ai voulu faire un atelier, ouais, d'écriture, ouais. Et après il m'a semblé évident d'en faire un enregistrement, de profiter que tu étais pas loin, et voilà, et on s'est rencontrés comme ça, ouais. Et voilà.
Au premier temps du Minitel, ça ne marchait pas forcément ça, mais c'est parce qu'il se passe d'autres choses là.
Mais on aurait tout vrai connu, ça qui est bien.
Je veux dire aussi, peut-être juste pour terminer, que la présence des autres auteurs, elle est perceptible aussi dans ton texte, puisque tu cites Ebailly et Cortazar, et que tout ça se mêle à ton propre travail, ta propre écriture, et qu'effectivement, il y a la personnalité de chacun qui est là, mais qu'en même temps c'est un travail collectif, c'est un travail à deux, et un travail où il y a des échos de textes à d'autres, et que c'est assez passionnant dans ces métamorphoses de l'écrit, si on peut parler de ça aujourd'hui. Je voudrais dire quelques mots pour terminer, puisque Anne Savelli, tu seras demain soir le 22 novembre, quand on écoutera cette émission enregistrée, ça sera déjà passé pour ceux qui nous écoutent à la radio, sur Grenouille, avec Jean-Marc Monterra au banc public pour les rencontres à l'échelle, une lecture de Décor Lafayette que vous ferez à deux. Vendredi, tous les deux, vous êtes présents, 23 novembre, avec Alphabetville et Lamarelle, pour les écrits du numérique, justement. Vous interviendrez pour expliquer un petit peu ce même travail, mais cette fois-ci peut-être plus en mettant les mains dans le cambouis, je dirais, de la pratique d'écriture et de comment les choses se sont déroulées. Et où, Pierre, tu parleras aussi de l'expérience publie.net, des rencontres qui sont organisées grâce à l'aide de la DRAC et puis la présence d'Alphabelil et de SFT. Je voudrais, pour terminer, remercier toute l'équipe de la Marelle, Fanny Pomared, Émilie Laurent, l'équipe de Système Friche Théâtre avec son directeur Alain Arnaudet, Béatrice Simonet et Sophie Lemaire, ici à la technique avec Système Friche Théâtre, Cyril et Henri, pardon, pour Radio Grenouille, Sébastien, qui monte toujours les rencontres à l'air libre, que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci beaucoup à vous deux, Anne-Sabine et Pierre Ménard.
Merci.
À bientôt et revenez à Marseille par la route ou par des chemins de traverse.
Canto de mudo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos.